Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des maternelles, j'espère que vous êtes en forme car l'épisode d'aujourd'hui est très important, c'est parti! Aujourd'hui vous allez entendre un témoignage, alors on a tous déjà entendu parler des autistes Asperger, on a tous déjà entendu parler, sans doute qu'on a tous entendu aussi des fantasmes autour des autistes Asperger, et donc aujourd'hui on va entendre un témoignage, celui d'Elodie qui a été diagnostiquée Asperger, à l'âge de 27 ans. Donc très tard, imaginez comme à l'âge de 27 ans, ça a pu soulever chez elle des questions et surtout comme ça a pu apporter des réponses sur son passé. Témoignage incroyable, donc vous allez entendre celui d'Elodie, que l'on remercie d'être venu nous voir. Et puis nous serons avec un pédopsy, le docteur François Pinabel, juste après. C'est parti.
Le syndrome Asperger, c'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle qui se caractérise notamment par des difficultés à interagir avec les autres et à comprendre certaines émotions. Alors, c'est vrai que chez les garçons, c'est plutôt facilement diagnostiqué, mais chez les filles, le chemin peut être plus long. Cette errance diagnostique, Elodie, vous l'avez bien connue. Bonjour.
Oui, bonjour,
merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 30 ans, vous êtes la maman de Marc, qui a 4 ans, Aurélie, qui a 11 mois. Et alors, vraiment, toute votre vie, vous avez connu de nombreuses difficultés, notamment dans vos relations avec les autres. Évidemment, ça se voyait beaucoup à l'école. Et ça vous a plongé dans un profond mal-être, ce qu'on peut comprendre. Vous ne compreniez pas ce que vous aviez, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'arriviez pas à être heureux comme le monde qui vous entourait? Il vous aura fallu 27 ans pour découvrir que vous étiez autiste Asperger. Merci d'être avec nous ce matin. On va tout de suite revenir en arrière. Et on se retrouve à l'école primaire. Quel était votre rapport avec les autres?
Alors, j'ai toujours eu des amis. Ça n'a jamais été trop un problème pour moi de m'en faire. Mais ce n'était pas naturel. C'est vraiment que je voyais les autres se comporter comme ça. Donc, je faisais pareil parce que je ne voulais pas être seule. Déjà, tout petit, on ressent ces choses-là. Et donc, ça me demandait beaucoup d'efforts d'aller vers les autres.
C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, vous disiez, allez, il faut que je tisse du lien. Mais ce n'était pas quelque chose, limite, dont vous aviez besoin, si?
Bah, un petit peu.
Quand même.
Parce que ce n'est pas agréable d'être seul, mais disons que leurs préoccupations, leurs intérêts n'étaient pas les miens.
En plus, vous ne supportiez pas le bruit?
C'est ça, ni le bruit, ni l'agitation, ni qu'on me touche.
J'imagine que ça devait être l'enfer pour vous, les cours de récré.
Tout à fait. Donc, j'avais développé des stratégies pour éviter d'aller dans la cour de récréation. C'est-à-dire que je me proposais pour nettoyer la classe, pour préparer la collation, des choses comme ça. Et quand j'y allais, je pouvais me poser sur un banc pour faire un peu de crochet ou de tricot.
Comment ça s'est passé l'entrée au collège? Parce que là, c'est encore, y a encore plus d'élèves, encore plus d'agitation, des préoccupations aussi qui deviennent différentes. Comment vous vous sentiez?
C'était très, très stressant. C'est vrai que j'allais souvent au collège avec des auréoles pas possibles sous les bras, tellement j'étais stressée. On arrive, on doit changer de salle de cours toutes les heures, des professeurs différents aussi à chaque fois, et ça demande beaucoup d'efforts d'adaptation. Et c'est vrai que, comme vous disiez, mes camarades n'avaient pas les mêmes préoccupations que moi, c'est-à-dire que mes amis pouvaient discuter d'acteurs ou de chanteurs, sauf que je ne les connaissais pas. Mmh. Et en plus, je ne mémorise pas les visages, donc pour moi, c'était très compliqué de savoir de qui elles parlaient.
Alors, il y a eu une anecdote, c'est qu'à un moment, ils ont parlé de films érotiques, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai une amie qui parlait de films érotiques qu'elle avait vu un soir sur Canal. Et puis, tout le monde ricanait. Moi, je réfléchissais à des films érotiques, des films avec des héros. Enfin, je comprenais pas. Et du coup, j'ai essayé d'apprendre le dictionnaire.
Ça, vous avez pris le dictionnaire et vous vous êtes dit, j'apprends tous les mots par cœur pour plus jamais être larguée quand on me parle de quelque
chose.
C'est ça.
Sauf que j'ai lâché l'affaire vers la lettre E. C'était pas
faisable.
C'est
déjà énorme. Déjà énorme. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ah, quand même, je suis différente des autres élèves?
C'est dès la sixième que j'ai capté que je n'étais pas comme les autres.
Est-ce que les regards des autres étaient braqués sur vous? Comment est-ce qu'ils étaient, justement?
En fait, je ne supportais pas qu'on me regarde, donc j'essayais de me faire le plus petite possible. C'est moins on m'entendait, moins on me regardait, et mieux je me sentais. Et par exemple, je ne pouvais pas prendre la parole en classe. C'était vraiment un effort trop important pour moi.
Et comment vous faisiez alors? Parce qu'il y a souvent des moments où on doit faire un exposé, où on est interrogé.
Alors, il n'y avait pas trop d'exposés, fort heureusement, mais par exemple, en cours de musique, on nous avait demandé de faire une improvisation à la flûte. Donc, on passait vraiment élève par élève, tout seul, face à toute la classe qui nous fixe. Et je n'ai jamais réussi. Je me suis mise à pleurer, je ne pouvais pas.
Ça doit être épuisant, non ? On se dit toujours être dans la stratégie pour pouvoir finalement d'abord se tisser du lien, puis ensuite se cacher. Est-ce que vous avez continué tout ça au lycée ?
Alors, j'ai essayé. Sauf que ça ne marchait pas très bien et je me suis laissée submerger par mes angoisses. Donc avant, j'aimais bien quand même aller à l'école parce que j'adore apprendre. Sauf qu'au lycée, c'était devenu un calvaire d'y aller. Donc tout prétexte était bon pour rester à la maison.
Ouais, et à un moment, quand même, ça commençait à se voir parce que j'imagine que c'est une échappatoire, mais vous vous endormiez tout le temps.
Oui, en fait, c'est dès que je m'ennuyais, je m'endormais, je me sentais partir, mais j'avais vraiment aucun contrôle là-dessus. Et ça m'a valu quand même quelques ennuis. J'avais toujours un camarade qui me mettait un petit coup de coude. Je me réveillais, je regardais le regard réprobateur du professeur. Et maintenant, je le sais, c'est une hypersomnie idiopathique, sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. Mmh. Donc on me disait tout le temps, Élodie, concentre-toi, Élodie, il faut dormir la nuit. Sauf que c'était pas possible et en fait, il n'y avait pas de lien, sauf que les médecins ils se sont focalisés sur mes angoisses et sur mes insomnies. Donc, ils m'ont donné des somnifères, sauf que ça ne me faisait pas dormir, ça me donnait des hallucinations.
Ah, vous aviez un effet paradoxal.
C'est ça, et ça ne réglait pas du tout mon problème.
En préparant l'émission, vous nous avez dit que tout ça, vous avez quand même donné des idées noires, ce qu'on peut comprendre.
Oui, à 15 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que je voyais tout le monde heureux autour de moi et moi, je n'y arrivais pas. Sauf que, objectivement, je manquais de rien. Donc, je me sentais sombrée, en fait.
Oui, vous disiez, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être heureuse alors que j'ai tout pour l'être ?
C'est ça.
Donc, vous vous culpabilisiez aussi ?
C'est ça. Oui. Et puis, je voyais pas d'issue, vu que je ne manquais de rien.
Mmh. Et ça a été la seule tentative de suicide ?
Non. Non. Non, il y en a eu d'autres par la suite. En fait, j'ai été dépressive pendant des années. Sauf que comme je savais que ça ferait de la peine à ma famille si je partais, j'ai appris à me coller un grand sourire sur le visage dès que je sortais de chez moi. Sauf qu'au fond, ça n'allait pas.
Alors malgré toutes ces difficultés, vous avez quand même eu votre bac. Ça, c'est quand même une performance parce qu'en étant aussi mal, faut le faire. Puis après, vous avez intégré une école d'informatique. Est-ce que là aussi, vous continuiez à vous sentir mal ?
Oui. Alors, c'était des projets en groupe. Donc, en plus, il fallait travailler avec d'autres élèves constamment. Et déjà, je suis quelqu'un d'assez carré. Donc, pour moi, il faut que les choses soient bien faites. Elles ne peuvent pas être faites autrement. Et ils étaient tous très laxistes, très cool. Quand on leur donnait rendez-vous à 9h, ils arrivaient à 9h15, 9h20, pour eux, pas de soucis. Si le projet n'était pas fini en temps et en heure, ils n'étaient pas stressés, tout allait bien. Sauf que c'était une école privée. Moi, je suis issue d'une famille très modeste, donc j'ai contracté un prêt étudiant et j'avais sans arrêt cet enjeu, je devais réussir. Pour moi, ce n'était pas possible autrement. Donc, c'était doublement plus stressant.
Alors, vous avez terminé vos études, vous avez commencé à travailler dans une société d'informatique. Là, vous avez rencontré votre conjoint, d'ailleurs, et le futur père de vos enfants. Et c'est à 27 ans, alors que votre fils a un an, que vous allez enfin trouver le chemin d'un diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ?
Alors, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Collin. Et en fait, chaque mot, chaque ligne, c'était vraiment toute ma vie qui était étalée dans ce livre. Et je me suis dit, ça ne peut pas être une coïncidence. Donc, j'ai cherché une psychologue qui était qualifiée dans le haut potentiel, vu que tous les psys que j'avais vus jusque-là étaient passés à côté de beaucoup de choses. Et elle a su m'aider. Donc, déjà, elle m'a envoyé passer un test de QI. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais au potentiel et que j'avais des troubles du déficit de l'attention. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai lu d'autres livres, dont « La différence invisible » de Julie Daché. Et c'est là qu'on s'est dit, oui, en effet, l'autisme, ça pouvait être une piste.
Alors, donc là, on vous a diagnostiqué Asperger, ferme et définitif.
Oui.
Comment vous avez réagi à ce diagnostic ? Ça a été une libération pour vous de dire, en fait, tout s'explique.
C'est ça. Alors d'abord, j'étais quand même un petit peu choquée parce que d'habitude, on apprend à se connaître à l'adolescence, pas à l'âge adulte. Mais oui, comme vous dites, c'était libérateur. Je me disais, mais en fait, je ne suis pas folle, contrairement à ce que je pensais, à ce qu'on disait de moi aussi, que je n'avais rien qui cloche. C'est juste que ce monde n'était pas très adapté à moi.
J'ai une spécificité, voilà, voilà, qui explique cet état. Qu'est-ce que c'est vous ça. En avez fait de ce diagnostic ensuite? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre vie?
Alors déjà, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Dédale Mental. Donc ça m'a permis d'exorciser quand même, de parler de tout ce que j'ai vécu, du diagnostic, de la thérapie. Et j'ai discuté avec des gens qui vivaient les mêmes choses que moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va mieux.
Et on a le plaisir de recevoir le docteur François Pinabel. Bonjour,
bonjour
docteur. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et en libéral. Merci de revenir nous voir. On a vu qu'Élodie a dû attendre 27 ans pour avoir un diagnostic. C'est énorme. Bon, déjà qu'on comprenne bien de quoi on parle, qu'est-ce qui caractérise précisément le syndrome Asperger?
Alors, le syndrome Asperger, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est une forme d'autisme. Maintenant, actuellement, dans les classifications récente, notamment de l'OMS, qu'on appelle la CIM-11, qui vient de sortir. On ne parle même plus de syndrome d'Asperger, on parle de troubles du spectre de l'autisme, mm-hmm. qui inclut les formes d'autisme avec retard de langage, retard intellectuel, et les formes d'autisme où il n'y a justement, ni retard de langage, ni retard intellectuel, voire même niveau intellectuel normal, voire très élevé. D'accord. Et le syndrome d'Asperger fait partie de ces formes-là, avec quelques petites caractéristiques, puisque, en fait, à l'origine, c'est un médecin autrichien qui s'appelait Hans Asperger qui a décrit cette forme d'autisme, concomitamment aux formes d'autisme décrites par Kanner dans la même période, qui était, lui, parti aux États-Unis, où lui avait décrit les formes d'autisme avec retard de langage, enfin, la forme oui. d'autisme qu'on connaît le plus classique. Et Hans Asperger, lui, avait identifié une forme d'enfant qui avait effectivement un langage très élaboré, des capacités intellectuelles qui étaient vraiment développées, mais qui, par ailleurs, à côté de ça, avait des difficultés d'interaction sociale, de communication sociale, et souvent des centres d'intérêt, des passions qui les rendaient un peu particuliers dans leur contact. D'accord. Donc il a été identifié et c'est une psychologue britannique qui s'appelle Lorna Wing qui a exhumé les écrits, les descriptions cliniques de Hans Asperger dans les années 80 et qui a proposé qu'on puisse identifier un peu une forme un petit peu à part qui s'appelle le syndrome d'Asperger, qui a un peu ses particularités. Et finalement, c'est assez intéressant de voir, c'est parlant tout de suite, on voit un petit peu, même si dans les médias, on parle souvent d'Asperger comme en fait des autistes géniaux.
Parce oui, c'est pense... génie, il y a le petit côté
voilà,
génie.
Voilà, il y a un côté génie, mais en fait, quand vous avez un syndrome d'Asperger, vous pouvez avoir des capacités intellectuelles tout à fait normales, mais c'est véhiculé par les annonces comme Elon Musk ou des gens comme ça qui effectivement disent « moi, j'étais autistique Asperger », donc on a un peu ce fantasme que Asperger égale
vous
génie.
Vous connaissez les médias qui aiment bien oui. parfois en faire un
mais
peu
ça donne en même temps plutôt une bonne image.
Oui, c'est ça. On se dit on peut avoir une spécificité et puis
réussir. Et ça peut faire avancer les choses plutôt que…
Bien
parce
sûr,
que
bien sûr.
Dans la littérature, on retrouve… beaucoup de gens qui ont pu être diagnostiqués, même de façon rétrospective, comme Charles Darwin, comme Einstein, enfin voilà. Mm-hmm. On peut se poser la question de ce que peut apporter l'autisme lorsqu'il les rencontre effectivement un certain génie. Effectivement, ça peut être un booster, donc c'est vraiment intéressant. Ça renvoie à la notion de neurodiversité qui commence à se développer un peu partout, quoi.
On a reçu beaucoup de questions, notamment une de Sacha qui vous demande pourquoi c'est si difficile de détecter les filles.
Alors, c'était comme le sujet de l'émission qui était très intéressant, c'est le fait de parler de l'Asperger au féminin. Mmh. Et effectivement, la difficulté qu'on a, déjà dans l'autisme, comme dans beaucoup d'autres troubles neurodéveloppementaux et dans d'autres troubles psychiatriques, vous n'avez pas la même proportion de filles ou de garçons qui vont être touchés, ce qu'on appelle le sex ratio. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi, on a des questionnements. Et deuxièmement, les formes symptomatiques sont différentes. Par exemple, dans les troubles du spectre de l'autisme, il y a 6 garçons pour une fille, vous voyez, pour vous donner la proportion. Mmh. Et en termes de symptomatologie...
6 garçons diagnostiqués pour une fille diagnostiquée.
Voilà, en termes de proportion. Mais maintenant, c'est vrai aussi dans d'autres troubles, mais maintenant, on pense qu'effectivement, les filles passent sous les radars parce qu'elles ont des formes symptomatiques plus fines, plus subtiles, qui fait qu'elles ont des stratégies de compensation qui leur permettent pendant longtemps, c'est ce qui se passe pour Élodie, d'arriver un petit peu à observer, se mettre en mode camouflage, comme on dit, c'est le terme approprié qu'on utilise dans la littérature scientifique, pour pouvoir effectivement observer et un petit peu s'adapter, faire un peu comme tout le monde. Donc ça peut passer, et finalement, c'est plus tard qu'on commence à voir effectivement un épuisement qui arrive, parce que c'est coûteux. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est effectivement pas naturel. Pour les personnes avec autisme de haut niveau, ils vont apprendre à être sociale. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi comme les neurotypiques.
Elle l'a bien dit d'ailleurs, Élodie, elle a expliqué à quel point c'était un effort de tisser des liens, la pauvre.
Elle se camoufle mieux ou parfois la société s'interroge moins sur une jeune fille qui aura moins d'interactions sociales et on se dira, bon, écoute...
C'est tout à fait vrai, il y a une dimension sociale importante parce qu'une fille qui va être un peu dans le repli, qui va être un petit peu... On va penser qu'elle est timide et comme c'est une fille, on va pas forcément faire attention.
Alors que le garçon, il joue pas au foot, il crie pas partout, et donc on se dit, il y a un sujet.
Donc les codes sociaux dès le primaire sont très développés. Contrairement à une étudiante en psychologie sociale avait fait sa thèse sur les codes sociaux dès la cour de récréation de primaire, c'est comme très intéressant de voir la complexité de ces codes. Mmh. Alors au collège, c'est pire.
Mmh.
Parce que là, le machiavélisme social se met en place, et là, c'est très, très compliqué.
Question envoyée par Amandine, regardez.
Bonjour, je suis autiste Asperger et j'ai toujours ressenti un très grand décalage entre l'importance des difficultés que je ressens au quotidien et la perception vraiment amoindrie que pouvait en avoir mon entourage personnel et médical. Avez-vous eu des retours similaires dans vos patients? Et si oui, auriez-vous des conseils pour que nos difficultés soient mieux reconnues et prises en compte? Merci.
Parce que cette moelle est typique, c'est effectivement des retours classiques qu'on a sur le ressenti en termes de qualité de vie, de fatigabilité. On parle de charge mentale, et la charge mentale, c'est invisible, effectivement. Mais c'est très bien dit dans la bande dessinée de Julie Deschaise, quand elle fait une métaphore sur les cuillères d'énergie, comme si le matin, on avait tous un stock de notre batterie chargée. Et puis, voilà, quand vous êtes Asperger, votre batterie se vide plus vite, parce que vous devez faire beaucoup d'efforts. Donc, beaucoup de femmes, notamment autistes Asperger, racontent qu'elles ont besoin de temps de récupération, prendre une douche bouillante, s'isoler sous la couette avec... Voilà, elles ont besoin de temps de pause et une autiste Asperger qui s'appelle Rudy Simone a même écrit un livre qui s'appelle 23 conseils aux conjoints, pour les conjoints de femmes Asperger, pour expliquer que quand votre maman arrive du travail et qu'elle est épuisée, qu'elle s'isole une demi-heure dans sa douche, c'est pas parce qu'elle vous fait la tête et qu'elle veut pas partager avec vous.
Elle recharge les batteries.
Elle a besoin de recharger les batteries. Ça, c'est très important. Et ça, c'est pas forcément bien perçu par le corps médical ou l'environnement, que ça soit au collège, lycée et puis dans le milieu professionnel. Ça commence à arriver, mais c'est encore compliqué.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire juste où on peut être diagnostiqué?
Alors, comme a fait Elodie, on peut contacter les centres ressources autisme, qui sont des centres régionaux. Et là, effectivement, ils vont vous donner les coordonnées des services de référence hospitaliers et des professionnels libéraux qui peuvent faire le diagnostic. En d'autres termes, des médecins, parce qu'effectivement, les yeux qui sont posés par un médecin. Mais on peut faire aussi des tests neuropsychologiques pour un peu déjà faire une préévaluation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de délais pour le moment encore pour faire le bilan diagnostique.
Lola qui vous demande s'il faut un suivi particulier si son enfant est diagnostiqué autiste Asperger.
Alors, ça va dépendre un petit peu du profil de l'enfant, parce qu'on peut être Asperger et n'avoir aucune répercussion sur les apprentissages et sur la vie quotidienne. Il y a des gens qui viennent faire un diagnostic, même très tardif, à 30, 40, 50 ans. Ils viennent faire un diagnostic, puis après, ils repartent quelque part, ils ont réussi à compenser. Maintenant, il faut toujours, quand on fait un diagnostic d'autiste Asperger très tôt, voir s'il y a des répercussions à plusieurs niveaux, notamment sur le plan des apprentissages eux-mêmes, parce que vous pouvez avoir des troubles associés, comme Elodie tout à l'heure, qui avait un trouble attentionnel associé, ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives, c'est vos capacités à planifier, organiser, hiérarchiser, et ces fonctions exécutives, on va énormément s'en servir dans les apprentissages. Donc si effectivement, ce qui explique aussi le manque de flexibilité, souvent la psychorigidité chez les personnes autistes. Et donc ça, si effectivement il y a un impact là-dessus, il faut vraiment anticiper pour accompagner l'enfant. Certains ont besoin d'un accompagnement plus ou moins approfondi. Mmh. Et puis il y a aussi la dimension des répercussions en qualité de vie. Par exemple, bien sûr, être vigilant sur les réseaux sociaux, les codes sociaux dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai que pour les enfants et les adolescents, notamment au collège, c'est une catastrophe et souvent ils sont victimes de harcèlement, de brimades.
Parce qu'ils n'ont pas les codes.
Parce qu'ils n'ont pas les codes. Et en plus de ça, comme le collège est vraiment la période de l'entraînement aux codes sociaux, tout le monde s'entraîne à voir un peu comment trouver les limites. Et le machiavélisme social leur échappe complètement. Ils ont une naïveté qui font qu'ils sortent de l'œuf à chaque fois. Et comme ils n'ont pas de filtre en plus, du coup, ils vont tout de suite... ça va être très, très compliqué pour eux. Et il y a une autre dimension aussi importante, c'est la sensorialité. Ça, on en parle très peu. Mais les personnes avec autisme, notamment Asperger, ont souvent des difficultés de régulation sensorielle. C'est quoi le sensoriel? C'est nos capacités à l'appréhension de la lumière, de la couleur, du tactile. On sait très bien que beaucoup d'enfants avec autisme ont ces difficultés, peuvent avoir une hypersensibilité acoustique, auditive, visuelle, qui fait que c'est une grande fatigue pour eux. Et il faut pouvoir aménager l'environnement, ce qui commence à se faire aussi à l'école ou dans d'autres endroits, parce que c'est très fatigant. Des enfants qui viennent avec des casques pour atténuer le bruit, parce que, par exemple, ils ne peuvent pas manger à la cantine, le bruit est trop assourdissant, trop fatigant pour eux.
Mmh. Et par exemple, si on a un trouble de l'oralité, on doit...
Les troubles de l'oralité font partie des troubles sensoriels. C'est ce qu'on est... On est censé pouvoir maintenant explorer un peu tous ces champs. Et l'oralité, ça peut être la texture, les goûts, les couleurs qui font que certains enfants... Même les couleurs, il y a des enfants qui mangent que du vert, d'autres que du rouge.
Oui.
Donc ça va être associé à l'association de l'oralité liée à la sphère oropharyngée qui font qu'ils vont avoir des conduites alimentaires qui vont inappropriées.
Ils sont tous supérieurement intelligents, les autistes Asperger?
Non. Ils ont c'est la définition, c'est un QI normal ou élevé ou très élevé.
C'est ça. Mais dans tous les cas, normal.
Tout à fait normal. Mais dans tous les cas, on a souvent un décalage entre les capacités verbales, culture générale. Ils ont souvent un langage très ampoulé, très choisi, très précieux, et le décalage avec le reste. Et ce qui fait qu'ils passent souvent pour des enfants effectivement très savants, et ça donne des errances diagnostiques. Vous récupérez des enfants qui ont des diagnostics de haut potentiel, et on a dit aux parents, c'est parce qu'il est très intelligent qu'il n'a pas d'amis, et qu'il est isolé, parce que les autres ne sont pas à son niveau, puis on s'aperçoit que non, il a des difficultés d'interaction sociale, et ça n'a aucun rapport avec ses capacités intellectuelles, qui sont du coup hétérogènes.
C'est ça. Ok. Ursula vous dit, maman d'un enfant autiste de 15 ans, en fait, je suis perturbée parce que je me dis, c'est fou le nombre d'enfants qui ne sont pas diagnostiqués. Quoi.
Ah donc, oui, c'est très... de toute façon, les errances diagnostiques, c'est dur, un grand sujet. Et le surdiagnostic aussi, d'ailleurs, mais on viendrait pour en parler.
Pardon, donc Ursula, qui est maman d'un enfant autiste de 15 ans, elle dit, je trouve que nous avons fait beaucoup de progrès dans le diagnostic de l'autisme, mais quid de la prise en charge au niveau scolaire quand les enfants grandissent? Parce que c'est vrai qu'ils sont accompagnés en primaire, ça on le sait. Qu'est-ce qui se passe collège-lycée?
Alors, ils sont accompagnés au collège, au primaire, ce n'est pas si évident que ça, parce que notamment, certains peuvent avoir des accompagnements, ce qu'on appelle les AESH, les accompagnements d'éducation scolaire ou AVS.
AVS, oui.
Mais le problème en France, c'est qu'actuellement, la plupart des AVS n'ont aucune formation ou à peine une journée de formation sur ce qu'est l'autisme. Vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas de compétences, qui sont laissés un petit peu à eux-mêmes, qui font un peu l'accompagnement comme ils peuvent, mais ce n'est pas si évident. Alors, au collège, au lycée, ça devient plus compliqué, parce que souvent, vous avez des enfants collégiens qui sont Asperger, qui perçoivent quand même le regard que leur portent les autres enfants, leur père sur eux, et certains ne veulent pas d'AVS, puis ils ne veulent pas être encore plus stigmatisés qu'ils ne le sont. Donc, c'est un peu le paradoxe. Donc, il faut les accompagner et en même temps, il faut leur donner un petit peu de liberté. Et maintenant, il y a toute la dimension des apprentissages eux-mêmes, où effectivement, par exemple, on dit souvent que les personnes Asperger ont du mal à comprendre le second degré, l'implicite, les métaphores. Mmh. Et à partir de la quatrième et la troisième, vous commencez beaucoup à demander aux enfants d'accéder à la conceptualisation, à l'analyse de texte. Et là, ça peut être difficile pour eux. Donc là, ils ont besoin d'aménagement, par exemple, d'avoir plus de temps pour faire leur contrôle, ce qu'on appelle le tiers-temps, qu'on puisse aussi leur réexpliquer, expliciter les consignes, parce que souvent, les consignes sont implicites. Et donc, ils vont faire des hors-sujets alors qu'ils connaissent parfaitement leur sujet. Donc, il y a des choses d'accompagnement qu'on peut faire. Au lycée, pareil. Mais le collège, la grande difficulté du collège, c'est aussi d'être très, très attentif à ce qui se passe en cours de récréation. Parce que là, c'est vraiment le nombre de personnes autistes Asperger, y compris adultes, qui vous racontent des traumatismes qu'ils ont vécu au collège, qu'ils ont gardés encore même à l'âge adulte, avec des brimades parfois abominables, qui entraînent des tentatives de suicide, des phobies scolaires, des dépressions. Et chez les filles Asperger dont on parlait tout à l'heure, c'est souvent en décalage. Elles sont souvent encore dans le camouflage au collège et au lycée. Elles commencent à s'épuiser, ce qu'on appelle un peu le burn-out social. Et souvent, beaucoup de filles Asperger font des dépressions, des troubles des conduites alimentaires type anorexie qui se déclenchent à ce moment-là. Et ce qui entraîne d'ailleurs aussi, pareil, une errance diagnostique parce qu'elles sont hospitalisées ou prises en charge pour la dépression, pour l'anorexie, et on ne va pas chercher ce qu'il y a derrière. Donc souvent, il y a aussi ce décalage.
Est-ce qu'on peut recommander le livre de Joseph Chovanec, c'est ça? Je me trompe pas, bienvenue en autistan, qui, alors, je pense, peut aider beaucoup de familles qui seraient dans ces situations et qui ne savent pas comment réagir.
Il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont sortis. Les ouvrages, et notamment le très didactique de Joseph Chovanec, sont très intéressants. Il y a la bande dessinée de Julie Dachez aussi, qui est extrêmement didactique, pour les filles Asperger. Et Rudy Simone, qui est une personne Asperger féminine, qui a écrit vraiment un livre qui s'appelle « L'Asperger au féminin », plus pour les adultes Asperger, et c'est vraiment très didactique, parce qu'elle explique les difficultés que peut rencontrer une femme, notamment en tant que maman, en tant que conjointe d'un couple, et c'est très constructif pour l'après.
Vous avez dû être choqué, vous, quand vous avez vu Cédric Villani, quand il était candidat à je ne sais plus quoi, et qu'on l'insultait d'autiste, et qu'il devait se justifier à dire « oui, mais alors attendez, Asperger, pas Asperger, peu importe d'ailleurs la question », ça devait vous choquer, vous, quand vous êtes avec des petits gamins, après, qui se font harceler. C'est compliqué, même dans la classe politique, dans la classe médiatique. Ça reste une insulte.
Après, il y a les histoires de campagne où, effectivement, il y a toujours les coups bas qui sortent.
Ouais, mais là, c'est un coup très bas, quand même.
Voilà, il y a un coup, c'est un coup très discriminatoire. Il a eu une bonne réaction de dire, quelque part, il n'a pas répondu, il a une non-réponse, parce qu'effectivement, ça ne regarde personne. Et effectivement, ça pose des questions sur son mode de fonctionnement. Et au-delà de Cédric Villani, qui est quand même un grand mathématicien.
Oui, mais Lightfield, c'est la crème de la crème de la crème de la crème.
Voilà, exactement. Mais on sait qu'il y a une relation assez intime entre les troubles du spectre de l'autisme et les mathématiques, notamment.
Oui.
Par exemple, le mathématicien russe qui a découvert la conjecture de Poincaré, qui est une personne autiste de haut niveau, mais qui vit dans son HLM avec sa maman en Russie. Il a refusé la prime de 3 millions de dollars qui était attribuée. Et voilà, et ça, il y a une relation intime assez passionnante entre le génie mathématique, la conception des mathématiques, la perception et l'appréhension du fonctionnement autistique.
Mais pourquoi il a refusé 3 millions de dollars?
Enfin bon, c'est parce qu'il n'est pas comme vous, il n'est pas vénal.
Absolument.
Alors. On a une question de Lucie qui nous dit « Ma fille de 7 ans a beaucoup de mal à comprendre et à reproduire par elle-même certains codes sociaux, comme dire « bonjour, merci, au revoir ». Est-ce un signe de TSA ?
Ça peut être un signe de TSA, en tout cas de difficulté, même sans parler de TSA, de difficulté d'habilité sociale.
Trouble du spectre autistique, TSA, on l'a pas.
En fait, même maintenant, depuis la nouvelle classification, on a fait des progrès parce qu'on se retrouve classiquement devant des enfants qui ont des troubles d'habilité sociale, effectivement, qui ne comprennent pas forcément les codes sociaux, qui n'ont pas de répondants, qui n'ont pas pour autant de centres d'intérêt électifs que peuvent avoir les enfants autistes. Mmh. Donc, c'est difficile de les classer dans l'autisme. Et on a pu quand même remédier à ça parce que maintenant, dans les classifications récentes, on parle de troubles d'habilité sociale sans autisme. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut effectivement avoir une maladresse dans les interactions sociales, faire des faux pas, être maladroit, ne pas comprendre qu'il faut dire bonjour à tel et ne pas contextualiser la situation. Pour autant, on n'est pas dans l'autisme, parce qu'on n'a pas de centre d'intérêt électif, on n'a pas de troubles sensoriels, etc. Donc, on se dégage un petit peu de cette association qu'on fait à « j'ai des difficultés dans les interactions sociales, donc je suis autiste ». Donc, ça peut faire partie des pistes, mais là, l'idée, c'est d'aller rechercher depuis la petite enfance des symptômes d'autisme. Et là, on a des outils pour le faire, pour aller chercher rétrospectivement un argumentaire, parce que n'oublions pas qu'on parle d'un trouble du développement. Donc, s'il n'est pas arrivé à 7 ans, il a commencé à se manifester, on a des petits signes qui commencent à arriver à 2 ans. C'est ça l'intérêt.
Ah oui. Et quoi comme petits signes, pardon ?
Les petits signes à 2 ans, c'est effectivement, voire même 1 an, c'est des bébés qui ne vont pas regarder leur maman dans les yeux. Les mamans ont l'impression d'être transparentes. Ils ont l'impression que l'enfant regarde au travers d'elles. Ils peuvent avoir des difficultés quand on les porte, sur ces troubles sensoriels, des difficultés alimentaires, troubles du sommeil, un enfant qui ne va pas supporter certains bruits. Des petits signes comme ça qui doivent alerter. Et maintenant, il y a depuis très peu de temps, il y a même une brochure de dépistage qui vient d'être mise en place pour pouvoir inciter les pédiatres et les généralistes à remplir ces questionnaires avec les parents et, si elles ont le moindre doute, les orienter vers des plateformes d'accompagnement de dépistage. Et ça, c'est très récent. Et c'est quand même aussi une avancée pour pouvoir anticiper parce que, comme dans tout trouble neurodéveloppemental, plus tôt on agit, plus tôt on améliore le pronostic.
Il n'y a pas 2 ans d'attente là, pour avoir accès à ces plateformes ?
Normalement,
ça dépend des régions.
En théorie, normalement, ça doit être assez rapide. C'était un peu l'objectif, c'est de ne pas avoir cette temps d'attente en prenant tôt.
Maxime dit, j'ai entendu parler de projets d'urbanisme pour rendre les lieux plus adaptés aux personnes autistes. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors ça, c'est super. C'est quelque chose qui est en train de se développer, notamment dans la banlieue de Lyon. Il y a une ville qui a développé une expérimentation d'avoir une ville autiste friendly, comme on dit dans le langage un peu à la mode. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est à la fois l'urbanisme et la sensibilisation du personnel dans les mairies, etc., que tout le monde comprenne et sache ce que c'est que l'autisme. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours, on demande par exemple aux enfants, ce que l'on peut proposer aux enfants autistes, c'est des groupes d'habilité sociale. C'est-à-dire qu'on leur propose, en groupe, de travailler leur socialisation, qu'est-ce que tu fais à un anniversaire, etc., un peu la vie mode d'emploi sur la socialisation. Mais après, effectivement, là, l'idée, c'est aussi de demander aux neurotypiques, les neurotypiques, ce sont les gens non autistes, de faire un pas aussi et d'aller comprendre comment fonctionne une personne avec autisme. Et donc, sensibiliser le personnel, les commerçants, la signalétique aussi dans les rues. Parce que dans la rue, vous avez les rues qui sont avec des petites boules pour les non-voyants.
Ah oui, oui, oui.
Ou pour les aveugles, les malentendants aussi, il y a des signalétiques. Mais pour les personnes avec autisme, il n'y a rien. Et par exemple, l'idée, c'est de diminuer les lumières dans les supermarchés, diminuer le son. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler dans l'urbanisme. Donc ça commence à se développer, à la fois l'urbanisme et même l'architecture. Il y a des architectes qui travaillent maintenant avec des psychologues spécialisés dans les troubles sensoriels pour adapter l'environnement à la fois scolaire et même à la maison, pour que les enfants aient un niveau de confort, ou même les adultes, adaptés à leurs difficultés sensorielles.
Même quand on n'est pas Asperger, hein, si on pouvait... D'ailleurs, ça serait plus écolo. baisser un peu les néons, mais même dans les hôpitaux, dans les tout, dans tous les endroits publics, c'est vrai que on est agressé tout le temps.
On a encore du retard dans des pays comme la Nouvelle-Zélande. Vous allez dans un café, j'ai une personne adulte Asperger qui est très globe-trotteur. Elle m'avait raconté, elle est arrivée dans un café en Nouvelle-Zélande, elle a dit qu'elle était Asperger, et on lui dit, il n'y a pas de problème, il y a un endroit dans le restaurant où il y avait les lumières tamisées et pas de musique. Et les serveurs connaissent, tout le monde connaît. Bien sûr,
ouais. C'est dingue,
ça, on a encore du travail.
Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, bien sûr, dès 9h25 en direct sur France 2. Et puis n'importe quand, d'ici là, sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde.